Bonsoir Brigitte Giraud. On en revient à ce début du festival Effraction qui nous voit, pour sa quatrième édition, commencer par vous accueillir, ce qui nous réjouit grandement. Autour de Vivre Vite et du reste de votre travail, de Vivre Vite, paru chez Flammarion à la rentrée 2022 et qui a obtenu le prix Goncourt, ce qui était une surprise et une grande joie. Nul ne s'y attendait, on en parlait encore quelques semaines avant et ce n'était pas attendu et notre invitation avait précédé ce prix aussi parce que ce livre tombe d'emblée au croisement de ce qui nous interroge, de ce qu'on souhaite interroger avec Effraction, c'est-à-dire les rapports entre la littérature et le réel. Alors ils sont vastes ces rapports-là, mais tout de même... Je situe donc Brigitte Giraud. Vous écrivez et vous publiez depuis 1997, j'allais dire 18, 1997, mais les dates sont importantes dans ce livre-là. Et ce livre raconte ce qui vous est arrivé en 1999, le 22 juin 1999, quand, à l'orée de la sortie de votre deuxième roman aux éditions Stock, qui s'appelle Nico, vous perdez votre compagnon. Votre mari, Claude, qui meurt dans un accident de moto le 22 juin 1999. Il y a 23 ans, donc, il y avait 23 ans l'année dernière, année de la sortie, de la parution de ce livre. Et puis, deux ans après, vous aviez déjà rendu compte de l'état d'effarement du deuil, de l'incompréhension, de la stupeur du moment, qui se prolongeait évidemment, des jours qui suivaient la mort, de débuts d'interrogation sur ce qui avait pu la provoquer, parce que cet accident restait assez énigmatique. Et 21 ans après, ce livre-là, qui s'appelait « À présent », arrive « Vivre vite ». C'est dire que les questions sont tenaces, qu'elles ont travaillé en vous, puisque les livres ne fonctionnent pas du tout pareil, ils ne disent pas la même chose, même s'ils repassent sur le même drame et sur les mêmes interrogations, évidemment. Puisque si Vivre vite est construit comme une enquête, on va le voir, évidemment, cette enquête demeure irrésolue. Ce n'est pas un roman policier. Et évidemment, le deuil demeure le deuil. Comme vous le dites au début, vous allez bien, la vie avance, mais la perte, elle reste la perte. Point. Mais ce qui entoure la perte, le vertige qui l'a précédé, c'est ça qui constitue ce livre. Et ma première question, avant qu'on entre ensuite par un peu de lecture, ce serait celle-là, c'est-à-dire, pendant ces 21 ans qui séparent deux livres, pendant ces 21 ans durant lesquels vous avez écrit des livres de très différentes factures, des romans très romanesques, avec un peu d'histoire familiale. On pourrait trouver beaucoup de configurations différentes. Des romans très éloignés de vous par les personnages, mais qui mettent certaines de vos interrogations. Des romans à forte teneur autobiographique, mais mis à distance par des dispositifs langagiers. Je pense à Avoir un corps, qui m'avait par exemple beaucoup marqué, qui procède d'un matériau autobiographique, mais comme il est à l'infinitif, on est à une certaine distance, on n'est pas du tout dans le récit autobiographique au sens propre. En tout cas, vous avez toujours tourné autour du réel, tourné autour des questions de la famille avec beaucoup de précautions. Vous avez interrogé votre ascendance dans Un loup pour l'homme il y a 5 ans, mais c'était romanesque, c'était d'après évidemment des histoires de vos parents, mais avec une transfiguration romanesque. Et puis au bout de 21 ans, vous revenez à ce drame pas totalement original, puisque vous aviez déjà commencé à écrire, mais tout de même, vous revenez sur les traces. Pendant ces 21 ans, si j'ose dire, quel en était, ou pas, le projet? Y avait-il projet ou y avait-il simplement obsession? Est-ce que l'idée de continuer vous tenait, ou est-ce qu'elle est venue à un moment? Je devance peut-être, mais on parlera de la forme aussi, qui me semble importante dans ce livre-là. Mais voilà, pendant ces 21 ans, qu'en était-il de cette affaire ?
Merci, bonsoir à vous tous, merci d'être là. En fait, quand j'ai publié À présent, 2 ans après l'accident, il s'agissait en effet d'un récit directement autobiographique qui était vraiment un récit de la sidération, un récit de la stupeur, un récit de la déflagration, un récit du chaos qui tentait d'approcher ce paradoxe totalement surréaliste qui est que quand quelque chose de cet ordre-là arrive par effraction, j'ai envie de dire, dans votre existence, vous devez réussir tout un tas de tours de force, et le premier tour de force étant de rester debout et de donner une part visible de vous-même sur laquelle ne s'inscrit pas le drame, alors qu'à l'intérieur de soi, tout est effondré. Donc ça, c'est très compliqué. À présent, c'est la première semaine, en fait, ce qui se passe pendant la première semaine après cet accident. Tout ce qu'il faut accomplir, c'est-à-dire le fait de rester debout, ça veut dire aussi qu'il y a tellement de choses à accomplir qu'il n'est pas question que les choses se déroulent sans vous. Mais vous avez déjà compris que vous n'êtes plus là, que la personne qui est là, c'est plus la même, qu'elle s'est éloignée. Il y a eu une formule à un moment, c'est comme si je parle d'un tour de grand 8 avec la nacelle qui se détache. Et j'ai eu l'impression ensuite d'écrire depuis cet endroit où j'avais atterri, voilà, c'est-à-dire hors du monde, comme si le monde existait derrière une vitre. Quand j'ai publié ce livre-là, je savais pour autant que le livre, je ne l'avais pas écrit. Je savais qu'il me faudrait y revenir, je savais qu'il me faudrait du temps, parce que j'ai su très vite, j'ai su quelques jours après, j'ai su que cette histoire de moto posait problème, puisque ce jour-là, Claude circulait sur une moto qui ne lui appartenait pas, qu'il n'aurait jamais dû emprunter, qui était interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse, pays où elle a été fabriquée par la firme Honda, par un fabuleux ingénieur qui s'appelle Tadao Baba. Je savais qu'il y avait déjà cette chose, elle était réservée pour l'exportation vers l'Europe et notamment vers la France, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, ce qui pose déjà un problème on vient de parler, là, il y a 5 minutes, de la cruauté du libéralisme. Donc je savais qu'il y avait déjà une question qu'il me faudrait élucider de cette mondialisation, de cette cruauté-là, de ce monde qui vient couper votre vie en deux. Donc je savais qu'il faudrait que je mène l'enquête autour de cette histoire de moto, pourquoi une moto interdite ici et autorisée ailleurs. Et puis je savais aussi autre chose, qu'il m'a fallu mettre pas mal de temps à élucider. Je savais que les jours, les semaines et les mois qui ont précédé l'accident, rien ne s'était passé comme prévu. Je savais qu'il y avait eu d'étranges coïncidences, des hasards tout à fait bizarres. Il y avait eu un enchaînement des événements, ce que j'appelle le cours des choses, avec des signes avant-coureurs que, évidemment, je n'avais pas vus, tout en sachant que quand rien ne se passe de grave dans votre existence, vous n'allez pas enquêter sur ce qui s'est passé les semaines et les jours qui ont précédé le point P. Voilà. Donc il m'a fallu 20 ans pour mener l'enquête, parce qu'il s'agit à la fois d'une enquête intime, d'une enquête collective, d'une enquête sociologique, d'une enquête historique, d'une enquête politique au sens large. Et puis, si ça m'a pris 20 ans, c'est que je savais que ce livre devrait faire émerger tout un tas de vérités. Ça sert à rien d'écrire si c'est pas pour finir par accepter de regarder certaines vérités, voire réalités en face. Et pour cela, j'avais besoin de temps, j'avais besoin d'être à la bonne distance. Là, il a fallu une vingtaine d'années parce qu'il fallait que je sois sortie du chaos, que je sois en pleine possession de mes moyens physiques et mentaux et liés à l'écriture. Il fallait que je sois peut-être un peu plus aguerrie du point de vue littéraire. Voilà, ce livre me faisait peur, donc je le reportais. Et au lieu de l'écrire, j'écrivais d'autres livres qui mettaient en scène tout un tas de mes obsessions, mais sans arrêt transposées, et qui parlaient de tout un tas d'autres choses. Mais si on les regarde de près, évidemment, pas mal de ces obsessions sont à l'œuvre. Voilà, donc je ne sais plus quel était exactement le point de départ, ça. mais
Que s'est-il passé pendant ces 20 ans ?
Il s'est passé que j'ai mené tout un tas d'enquêtes, en fait.
Je n'oublie pas de remercier Sandra Faure et Sylvia Babin qui traduisent en langue des signes cette rencontre, comme on avait démarré avec pas mal d'informations, j'allais oublier. Je les remercie d'autant plus qu'on va, on va assez vite rentrer dans la lecture, parce que c'est important, parce que de là résultera une question qui pourra nous occuper un long moment. Alors je précise que ce que Brigitte va vous lire, c'est pas tout à fait le début. Il y a un premier chapitre qui pose très, très clairement les choses et les circonstances, hein, un chapitre qui contextualise qu'au présent, je vais revendre la maison, que la maison est très importante dans ce qui va être raconté, dans le drame qui s'est produit, et puis ça raconte quoi, quand nous avons acheté cette maison, Claude et moi, ça part de la maison. Et je fais une dernière fois le tour de la question, comme on fait le tour du propriétaire, parce que la maison est au cœur de ce qui a provoqué l'accident. Ça, c'est un premier chapitre. Et ensuite, je vous propose de faire connaissance avec ce qui advient et qui va déterminer le livre par la voix de Brigitte, si vous voulez bien.
Oui, en effet, comme vient de dire Guénaël, il se trouve que cette maison achetée dans laquelle nous avons emménagé 3 jours après l'accident, mon fils et moi, est au cœur de ce qui a provoqué l'accident par une mécanique, ce qu'on appelle effet domino, que le livre va mettre en évidence. Et la maison, évidemment, est un des personnages principaux de ce livre. Donc là, on est page 21, et c'est un nouveau chapitre qui s'appelle « Si ». Si je n'avais pas voulu vendre l'appartement, si je ne m'étais pas entêtée à visiter cette maison, si mon grand-père ne s'était pas suicidé au moment où nous avions besoin d'argent, si nous n'avions pas eu les clés de la maison à l'avance, si ma mère n'avait pas appelé mon frère pour lui dire que nous avions un garage, si mon frère n'y avait pas garé sa moto pendant sa semaine de vacances, si j'avais accepté que notre fils parte en vacances avec mon frère, si je n'avais pas changé la date de mon déplacement chez mon éditeur à Paris, si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire, au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour, si j'avais eu un téléphone portable, si l'heure des mamans n'avait pas été aussi l'heure des papas, si Stephen King était mort dans le terrible accident qu'il avait eu 3 jours avant Claude, s'il avait plu, si Claude avait écouté « Don't Panic » de Coldplay et non pas « Dirge » de Death in Vegas avant de quitter le bureau, si Claude n'avait pas oublié ses 300 francs dans le distributeur, si Denis R. n'avait pas décidé de ramener la 2 chevaux à son père, si les journées qui ont précédé l'accident ne s'étaient pas emballées dans une suite d'événements, tous plus inattendus les uns que les autres, tous plus inexplicables, et surtout, pourquoi Tadao Baba, cet ingénieur japonais plein de zèle qui a révolutionné l'histoire de la firme Honda, entre-t-il par effraction dans mon existence alors qu'il vit à 10 000 km ? Pourquoi la Honda 900 CBR Fireblade, l'âme de feu, fleuron de l'industrie japonaise sur laquelle Claude roulait ce 22 juin 1999, était-elle réservée à l'exportation vers l'Europe et interdite au Japon parce que jugée trop dangereuse ? Je reviens sur la litanie des si qui m'a obsédée pendant toutes ces années et qui a fait de mon existence une réalité au conditionnel passé. Quand aucune catastrophe ne survient, on avance sans se retourner, on fixe la ligne d'horizon droit devant. Quand un drame surgit, on rebrousse chemin, on revient hanter les lieux, on procède à la reconstitution. On veut comprendre l'origine de chaque geste, chaque décision, on rembobine 100 fois, on devient le spécialiste du cause à effet. On traque, on dissèque, on autopsie. On veut tout savoir de la nature humaine, des ressorts intimes et collectifs qui font que ce qui arrive, arrive. Sociologue, flic ou écrivain, on ne sait plus, on délire. On veut comprendre comment on devient un chiffre dans des statistiques, une virgule dans le grand tout, alors qu'on se croyait unique et immortel.
Merci. Je précise que nous ne... n'imposons pas que tous les auteurs aient le mot effraction dans leur premier chapitre, mais qu'on ne s'empêche pas de le relever, de relever le fait qu'il n'y ait pas de hasard, encore une fois, que cela fait signe. Vous avez entendu la litanie des si, elle va organiser, articuler les 22 chapitres essentiels du déroulé. Donc il y a un côté programmatique. Il y a aussi un aspect fictionnel, évident, puisque si, ben c'est le, voilà, la ritournelle des enfants, et si on était cela. Et puis, il y a un autre aspect, moi, qui m'a frappé dès la première lecture, et par la suite, c'est que cette liste-là, elle me semble, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que le deuil, il se fait, mais il ne se fait pas. C'est-à-dire qu'elle me semble, malgré tout, une continuité de l'état de choc en tant que poème, hein, si c'était un poème inventaire à la Hospitalier, une liste, elle semble dire l'état de sidération dans lequel on est. Alors on raisonne, on fait des trucs, et puis en même temps, on est toujours en train de folayer en quelque sorte. Et en tant que telle, cette liste déjà dit ça, dit quelque chose qui reste de cette sidération. Et par la suite, elle va donc articuler et produire de la fiction. Et j'ai trouvé cette forme, évidemment, absolument déterminante, à plusieurs endroits. Et ma question serait formelle, pour le coup. Mais à quel moment est-elle venue et n'est-ce pas elle qui a déterminé la possibilité de l'écriture même du livre ? Pas seulement du désir de faire ce livre-là, mais de l'écrire.
La raison principale qui fait que j'ai attendu 20 ans... c'est qu'il fallait aussi que je me sente à la hauteur de cet homme dont je parle, que je me sente à la hauteur aussi de l'événement, de l'histoire d'amour, etc. Mais il fallait aussi que je trouve une forme. J'arrivais pas à trouver une forme, je n'arrivais pas à trouver la porte, la clé qui allait m'ouvrir la porte du livre. Je savais pas comment le construire. Et puis il y a eu un moment où les promoteurs ont commencé à prendre le quartier dans lequel j'ai vécu pendant une vingtaine d'années, dans cette fameuse maison qu'il m'a fallu rénover toute seule, pour le coup, qui a correspondu non pas à un nouveau départ, une vie qui allait se démultiplier et quelque chose d'extrêmement joyeux et plein d'énergie, mais la maison est vraiment le lieu qui a à la fois contenu le deuil et l'obligation d'en sortir et de finir par apprivoiser aussi ce lieu. Et le premier « si » qui m'est venu, évidemment, c'était « si je n'avais pas voulu acheter cette maison », parce qu'il se trouve que là aussi j'avais tout un tas de signes qui me disaient qu'il n'aurait pas fallu acheter cette maison. C'est une maison que j'ai voulu visiter alors qu'elle n'était pas à vendre. Donc les premiers voyants qui sont rouges, c'est celui-ci. La dame qui me fait malgré tout visiter la maison me dit des choses qu'elle n'aurait jamais dû me dire. Elle me dit qu'elle n'est pas à vendre, mais elle commence à me raconter l'histoire de la maison. Elle me dit on est sur la commune de Caluire. Caluire et Cuire, qui jouxte le 4e arrondissement de Lyon, c'est la ville où Jean Moulin a été arrêté. Donc c'est très important parce qu'il y a un lien avec la grande histoire. Elle me dit dans cette maison, Jean Moulin y a organisé des réunions. Donc là, mon désir monte d'un cran. Elle me dit aussi que des parachutistes anglais ont été cachés dans la cave. Alors là, ça devient intenable. Et puis, troisième phrase sidérante, elle me dit « il y a une cache d'armes, il y a déjà des armes qui ont été cachées quelque part au fond du jardin ». Donc à partir de ce moment-là, je n'ai eu de cesse de vouloir absolument acquérir cette maison. Ce qui a fini par marcher, par des tours de passe-passe, parfois on est capable, quand le désir est à son incandescence, vous le savez bien, de faire des doubles saltos arrière et plus. Et puis, 20 ans après, les promoteurs prennent le quartier et je dois être chassée de cette maison. Et au moment où je sais que je vais devoir quitter ce lieu, quitter un lieu, comme vous le savez, ça veut dire être capable de se projeter vers l'ailleurs. Donc ça veut dire que mentalement, vous êtes dans une forme de déséquilibre qu'il va falloir résoudre. Souvent, un déséquilibre, ça peut être l'écriture qui permet d'aider à retomber sur ses pattes. Pour moi, écrire, c'est souvent une recherche d'équilibre, un rapport à la métamorphose. Et puis, il y a quelque chose d'extrêmement concret dans l'idée de quitter les lieux, c'est qu'il faut vider les lieux. Et vider les lieux, ça veut dire, il y a beaucoup de littérature qui parle de ça, ça veut dire inventorier les objets, ça veut dire faire des cartons et se déterminer en fonction de ce qu'on garde, ce qu'on jette, y compris notre lien aux objets, ce qui est absolument fascinant, et en l'occurrence aussi les objets qui appartiennent à l'autre. Donc le premier chapitre s'est posé comme ça. Si je n'avais pas fait des pieds et des mains pour acquérir cette maison. Et à partir du moment où je pose le si, qui était là depuis 20 ans, hein, de toute façon, parce que je me sentais évidemment un peu pas forcément coupable, mais en tout cas responsable de ce désir fou de vouloir acquérir cette maison, qui était le mien, qui était uniquement le mien. J'ai eu l'impression d'avoir déséquilibré tout le monde. Et à partir du moment où j'ai identifié ce premier-ci, l'ensemble des chapitres s'est structuré. Et pour écrire, je me suis basée sur le travail de deux plasticiens suisses-allemands qui sont Fischli et Weiss, que vous connaissez peut-être. On est dans un lieu qui met en avant l'art sous toutes ses formes. Fischli et Weiss, donc ce duo d'artistes, a mis en scène dans leur atelier des compositions, des installations à partir d'objets de la vie quotidienne et d'objets qu'on trouve dans l'atelier, des objets qui s'animent les uns les autres par une sorte de mécanique qui crée là aussi un effet domino assez fascinant. Par exemple, vous avez une petite bille qui va rouler dans un rail, la bille va tomber dans un seau d'eau, l'eau va déborder, va entraîner une petite vague qui va faire bouger une turbine. Je pense que vous avez tous vu cela. Il y a des petits films qui sont visibles sur YouTube, et à partir de ce moment où j'ai eu cette vision plastique, j'ai toujours une vision très plastique des choses, c'est-à-dire le paysage, les points cardinaux, le lien vraiment au réel, pour le coup, qui est toujours très présent dans mon écriture. À partir de ce moment-là, j'ai eu ce modèle de cause à effet. D'ailleurs, les installations s'appellent Der Lauf der Dinge, ce qui veut dire le cours des choses. Et là, ça a été parti pour la structure du livre, et ça m'a beaucoup aidé.
Les espaces, vous le dites un moment dans le livre, hein, les espaces vous intéressent, ils ont concerné beaucoup des livres, espaces plus resserrés, espaces ordinaires justement pour décrire des vies ordinaires, pour décrire tout ce qui peut se passer au sein des familles concentrées. Ça vous a toujours intéressé. Là, vous partez de la maison et les premiers chapitres sont, si je dis sociologiques, c'est ne dire qu'une chose. Ils sont assez descriptifs de ça, ils sont notamment sociologiques. Enfin, en tout cas, ça fait la micro-histoire d'une génération au cœur de cette maison, c'est-à-dire les mouvements de la périphérie vers le centre, puis éventuellement vers la périphérie pour la propriété. Ça dit quelque chose d'une génération. Ce sera ma question. Juste dire que ce qui apparaît aussi, je pense, dans la structure du livre, c'est qu'on démarre de la maison, et donc de vous, de ce que vous avez appelé votre responsabilité, la maison et tout ce qui s'ensuit autour, puisque la maison, le garage, la moto, etc. etc. Et puis on va vers Claude. Et quand je parlais de fiction tout à l'heure, j'aimerais y revenir ensuite, c'est-à-dire qu'il fallait aussi poser tout ça par des nécessités, des raisons et des causes, et des grandes causes, si j'ose dire, systémiques, pour en arriver à la nécessité de fiction pour en faire le portrait. Ça vient par touche, Claude apparaît peu à peu dans le livre. Au départ, on est dans la maison, dans le couple, dans ce qui vous anime, comme presque entité sociologique, un couple de la fin des années 90.
Oui, c'est l'histoire finalement d'un petit embourgeoisement, on peut appeler ça comme ça, ou aujourd'hui on dit boboisation, c'est un terme un peu bizarre, mais c'est tout à fait ça, des jeunes gens qui se sont rencontrés dans une ZUP et qui ont eu envie de s'approcher du centre-ville parce qu'il y avait la musique, les concerts, les cafés, le cinéma, etc. Puis qui petit à petit ont eu envie de se retirer un petit peu pour être un peu plus tranquilles au moment où ils sont devenus parents, où ils ont besoin d'un lieu à l'écart pour écouter la musique fort, parce que la musique est très importante, c'est un des fils rouges du livre, mais aussi pour être un peu loin de ce cœur qui est trop, trop perturbant. Et puis il y a aussi l'histoire de la gentrification d'une ville, je parle beaucoup de la ville, donc je pense que c'est aussi le portrait d'une époque, les 20 dernières années du siècle dernier, avant le grand saut dans le tout numérique. Le fait qu'il n'y ait pas encore de téléphone portable, évidemment, joue un rôle extrêmement important. Donc moi, ce qui m'intéresse dans l'intime, c'est pas tant de parler de ma vie qui est pas plus intéressante que n'importe quelle autre vie, mais l'intime ne m'intéresse que quand il résonne avec le collectif, et ce livre me renseigne et me prouve finalement que nous sommes absolument tous reliés. Et je me suis rendu compte après coup, sans l'avoir décidé, sans l'avoir voulu, que chacune des pistes que j'emprunte dans chacun de ces 23 chapitres et chaque fois une piste qui va m'emmener vers un personnage qui est éloigné de moi. Par exemple, l'accident a lieu sur le boulevard des Belges à Lyon, devant un hôtel 5 étoiles qui s'appelle le Reine Astrid. J'étais passée devant quasiment deux fois par semaine. Je ne m'étais jamais posé la question de savoir qui était la Reine Astrid. Là, c'est un des premiers objets d'enquête. Je me dis, la Reine Astrid, je me rends compte que elle est morte dans un accident de voiture à 23 ans, voiture conduite par son époux, le roi Léopold de Belgique. Donc tout de suite, je me dis, tiens, il y a peut-être un début de sens. Ce livre, en fait, a sa raison d'être parce que je cherche du sens là où il n'y en a pas. J'essaye de comprendre l'incompréhensible et j'essaye finalement de faire en sorte de conjurer le sort encore 20 ans après. C'est comme si je donnais encore une possibilité aux événements de se terminer autrement. Donc il y a la reine Astrid, à un moment il n'y a pas Corabane parce qu'on est l'année 1999, l'année de l'éclipse. Donc j'essaye de comprendre aussi, je me dis mais bon, cette année 99, l'éclipse, il y a un chapitre qui s'appelle l'éclipse à la fin du livre, je me dis mais finalement pas Corabane, qui était-il ? Il est mort il n'y a pas très longtemps, là il y a 15 jours, je me mets à m'intéresser de près à Paco Rabanne, parce que je me dis, il y avait bien une raison qui fait qu'il adhérait à la croyance de Nostradamus, pensant et espérant que ce serait la fin du monde. Parce qu'à ce moment-là, moi j'espérais que ce serait aussi la fin du monde, et non pas uniquement la fin de mon monde. Donc j'avais vraiment envie que sa prophétie se réalise. Et en regardant de très près, je me rends compte que Paco Rabanne a perdu son père au même âge que mon fils, c'est-à-dire quand il avait lui-même 8 ans, le père de Paco Rabanne fusillé par les franquistes. Il va fuir l'Espagne avec sa mère, il va arriver dans le sud-ouest, dans les camps de Rivesaltes, etc. Et puis ensuite devenir l'homme qui est devenu ce couturier magnifique, qui a été le premier à faire défiler des filles noires, à imaginer des robes en métal, en bois. Enfin, c'est totalement fascinant. Et là, je me dis, tiens, quelqu'un, encore une fois, il y a du lien, il y a un vrai partenaire. Le rapport à l'accident de Stephen King est aussi quelque chose qui vient alimenter ce rapport au hasard, au destin. Parce qu'il faut dire, quand même la chose peut-être la plus importante, que c'est un livre qui pose la question, sans en parler directement, évidemment du destin. Qu'est-ce que le destin, ce fameux mektoub ? Le mektoub, c'est un mot qui vient de l'arabe. Pour deux jeunes gens qui étaient jeunes à ce moment-là, qui sont nés en Algérie. Claude y avait vécu plus longtemps que moi. Donc le mot mektoub en arabe veut dire ce qui était écrit. Donc je veux essayer de voir est-ce que c'était écrit. Puis de l'autre côté, il y a un autre mot qui est exactement à l'inverse, qui est le hasard. Le hasard, c'est un mot qui vient aussi de l'arabe, qui en arabe veut dire jeu de dés. Donc là, on est à l'inverse du destin. Et puis, au cœur de tout cela, il y a ce qu'on peut appeler le déterminisme, c'est-à-dire ce qui va nous déterminer tous, à la fois un déterminisme social, un déterminisme géographique, le déterminisme de l'époque, etc. etc. Donc le livre oscille entre toutes ces données. Il y a un petit chapitre sur le naturaliste Émile Guimet, parce que l'accident a lieu pas loin du musée Guimet à Lyon, qui est le muséum d'histoire naturelle, etc. Et tout cela fait sens, parce que dans ce type d'accident, il y a tellement pas de sens que moi j'ai besoin de reconstruire un petit bout d'amorce de sens. J'ai mis tout ce temps pour le faire. Je sais pas si ça sert à quelque chose, ça sert à rien, puisque de toute façon l'écriture est impuissante. Je sais très bien que l'écriture ne va pas modifier mon rapport au réel, mais ce que peut l'écriture, c'est peut-être, enfin ne va pas changer le réel, mais en tout cas ce que peut l'écriture, c'est peut-être simplement modifier le lien que je peux entretenir avec le réel. Et donc c'est déjà beaucoup.
Vous êtes d'accord pour lire un autre passage et qui peut arriver là, pile à ce moment-là, sur ce que ça produit. On a commencé à parler de micro-histoires et des circonstances. Et donc ce chapitre qui doit être le 12.
Oui, c'est le chapitre où je suis, puisque j'ai déplacé, quelques jours avant, j'ai déplacé mon aller-retour à Paris. Là aussi, ça fait partie des choses qui n'étaient pas prévues. Et tout tient, vous savez bien, un accident, ça tient à l'accident, l'étymologie, ça veut dire ceux qui tombent par hasard. C'est pour ça qu'on arrive sur le mot hasard. Et donc, chaque détail a son importance. Le rapport au minutage, le rapport à l'espace, enfin, tout est évidemment très important.
Et ce chapitre s'appelle « Si j'avais téléphoné à Claude le 21 juin au soir ». Donc, on est dans quelque chose de très factuel, on est dans ces histoires de circonstances. Oui. Et à l'intérieur de ça, on dit, à quoi ça sert et ce qui produit, et vous avez dit aussi ça fait sens, eh bien ça donne tout cela.
Voilà, chaque chapitre est extrêmement concret en fait, je ne parle que de la vie très concrète. Si j'avais téléphoné à Claude du 21 juin au soir, comme j'aurais dû le faire au lieu d'écouter Hélène me raconter sa nouvelle histoire d'amour.
J'ai dû au revoir à Claude le 21 juin en début d'après-midi après la signature de la vente chez le notaire. J'ai pris l'autobus jusqu'à la gare, puis le train comme prévu. J'ai passé la soirée chez Hélène comme prévu. Pendant le week-end à Lyon où nous avions bricolé dans la maison, j'avais tout de même eu le temps de croiser une copine à Monoprix dont le fils était dans la même classe que le nôtre et qui l'invitait à fêter ses 8 ans le mardi 22 juin après l'école. Cela arrivait fréquemment que les enfants s'invitent après 16h30, chez les uns, chez les autres. C'est ceci pour cela que j'avais voulu rester dans le quartier, pour cette camaraderie, cette fluidité, ces services qu'on se rendait, tout était facile. Claude n'avait donc pas besoin d'aller chercher son fils à l'école. J'avais complètement oublié de le lui dire. Nouveau joker. J'avais oublié, mais j'allais réparer cela. J'allais interrompre la conversation que nous avions chez mon amie Hélène, qui habitait près du centre Pompidou, et que je n'avais pas vue depuis longtemps. J'allais me lever du canapé sur lequel j'étais confortablement installée, dans lequel je dormirais, une fois la nuit venue. J'allais demander si je pouvais téléphoner. J'attendrais qu'il soit 21h30, puisqu'à l'époque, vous vous en souvenez, à l'époque le téléphone coûtait cher. Il y avait des zones de tarification, des horaires, un protocole qui rendait la vie parfois stupide, comme celui d'attendre près de l'appareil qu'on vous appelle, qu'une administration vous rappelle, que la personne dont vous étiez amoureuse vous rappelle. Nous étions embarqués dans une conversation dont je ne sais plus où elle nous avait menés. Sans doute Hélène parlait-elle de son nouveau travail de libraire ou de la femme qu'elle venait de rencontrer et qui provoquait chez elle des nuits tourmentées et des palpitations. À moins que nous nous soyons attardés sur les textes d'Olivier Cadio qu'elle aimait, ou sur le dernier album de Cat Power qu'elle venait de mettre sur la platine. Oui, il est probable que nous écoutions Moonpix. Peut-être parlions-nous de la nouvelle maison que nous venions d'acheter, Claude et moi, et des travaux que nous allions entreprendre, de cette maison dans laquelle nous avions prévu d'aménager 3 chambres à l'étage, dont l'une serait réservée aux amis, et qu'elle pourrait occuper quand bon lui semblerait. Lève-toi et appelle. Il est encore temps d'empêcher ce qui va arriver. Nous mangions des feuilletés qu'elle avait fait réchauffer, délicieux, et nous buvions du martini. Je crois que c'était du martini rouge, par petites gorgées. Nous buvions et nous bavardions. Il était 21h30 passé. La fête de la musique battait son plein sous les fenêtres. J'apercevais dans l'angle du coin cuisine une pendule et je pouvais surveiller l'heure qui avançait. Je me disais qu'il était encore tôt, que Claude devait être en train de coucher son fils. Je n'allais pas lui tomber dessus dès qu'il serait libre. Il aurait sans doute envie de se retrouver un peu seul, de fumer une Lucky Strike à la fenêtre en écoutant l'un des nouveaux CD rapportés du bureau, en montant les basses. Il pouvait pousser le son jusqu'à 22h, avant que la loi permette aux voisins de se plaindre, ce qu'ils n'avaient jamais fait. C'était plutôt eux qui nous saturaient les oreilles avec leur gymnopédie de Satie, jouer sur un piano, sans sourdine, et surtout leur régulière querelle de couple, qui finissait toujours de la même façon, avec les sanglots de la fille qui filtraient par le plafond allégé en surface isolante, puisque, comme je l'ai précisé, nous en avions démonté les lattis. Quelque chose me retenait d'appeler. Je différais. Je regardais en direction du combiné téléphonique, sur l'une des étagères du bas de la bibliothèque, mais je ne parvenais pas à interrompre Hélène, qui me racontait des choses intimes sur son existence, sa nouvelle vie parisienne, ses émois amoureux. Je n'osais pas me lever et lui demander si je pouvais utiliser son téléphone pour joindre Claude. J'avais peur qu'elle trouve cela ringard, et même envahissant, qu'une fille, à peine éloignée depuis une poignée d'heures, éprouve le besoin d'appeler son compagnon. J'avais peur sans doute qu'elle me juge, comme on juge parfois les couples hétéros, dont on dit aujourd'hui qu'ils sont hétéronormés, et qu'elle imagine que je ne pouvais pas me sentir libre, seule loin de lui, loin de celui qu'elle connaissait et appréciait par ailleurs. Ce qui ajoutait à ma crainte, qui n'en était pas une, mais seulement une vague sensation qui me traversait, était qu'elle croit que je me sente obligée d'appeler parce que j'avais un enfant, et qu'elle constate, ou plutôt vérifie, que les mères, séparées de leur progéniture, ne sont rien. Comme sur les couples hétéronormés, il court aussi des clichés sur les mères qui ne sauraient pas vivre loin de leurs enfants, qui n'auraient aucun autre sujet de conversation que leurs gosses, d'autres préoccupations. Et il faut dire que cela n'est pas totalement faux. J'ai lu récemment un texte de la lacanienne Dominique Guillaumard dans La folie maternelle ordinaire qui pose la douce question de savoir si l'on peut être mère sans être folle. Voilà, comme ça c'est dit. Hélène n'avait ni homme ni enfant. Je ne voulais pas la polluer avec ma possible folie maternelle qui me fournit, après coup, un début d'explication. Mais si je suis honnête, je ne voulais pas interrompre ce qu'elle me racontait de ces choses de l'amour qu'elle vivait et qui rendaient la soirée palpitante. Nous étions en pleine complaisance, en pleine régression de copines qui se retrouvent, et j'avais aussi simplement la flemme de me lever, une bonne grosse flemme. Je me disais malgré tout, « Maintenant tu appelles ». C'était là, maintenant, qu'il fallait téléphoner. Ce coup de fil, je ne pouvais pas le deviner. Ce coup de fil aurait changé le cours de notre existence.
Merci. Il y a plein de choses dans un chapitre comme celui-là. Il est question de téléphoner à 21h30 et vous dites une phrase comme « Vous vous en souvenez ». Je ne sais pas si ça a fait le même effet aux autres lecteurs, et je ne sais pas si vous y avez pensé en l'écrivant, mais le « vous vous en souvenez » est presque ironique, parce qu'évidemment, ce qui m'arrive en lisant ça, c'est « ah oui, j'avais oublié ». C'est il y a 20 ans, et ça paraît déjà infiniment loin. C'est-à-dire qu'il y a quand même eu une bascule technologique énorme, en fait, en 20 ans. C'est un siècle avant, mais effectivement, cette histoire d'attendre pour téléphoner. Et ça revient par ces détails-là, les SMS, enfin, tout ce qui fait que ça ne se serait pas passé comme ça. Alors, ça ne serait pas forcément fini bien. C'est ça la question, la projection, elle peut durer sans fin. Mais du coup, ça permet ça. Ça permet, alors, ce n'est pas un prétexte, hein, mais ça le produit. Ça produit ces possibilités de micro-histoire, ce que j'évoquais tout à l'heure, de micro-histoire technologique, de micro-histoire de nos usages. De nos usages du monde. Et ça, je trouve ça assez passionnant. Et deuxième point, là, dans ce chapitre, on a dit le mot sociologie, ce qui est marquant, ce sont les empêchements. Les empêchements sont les empêchements d'une provinciale qui vient à Paris pour devenir écrivain, parce que c'est à Paris qu'on est écrivain, à l'époque en tout cas.
Quand on a son éditeur à Paris.
Voilà, mais à l'époque, en tout cas, d'une part, les éditeurs l'étaient beaucoup plus tous, et puis voilà, c'est comme ça que ça se passait. En tout cas, cet empêchement-là, premier empêchement, on dort chez une copine, on n'ose pas prendre l'hôtel parce qu'on ne peut pas se le permettre, parce qu'on est de province, etc. Ça intervient peut-être dans un autre chapitre, mais en tout cas, c'est un des premiers empêchements, de voir l'ami et d'avoir un plaisir à le faire, mais de devoir le faire. Et puis l'autre empêchement sur lequel vous êtes attardé, sur le fait d'avoir peur d'avoir l'air ringarde, hétérocentré, qui sont aussi des questionnements d'époque, mais qui apparaissaient déjà, peut-être de façon plus floue. Mais là, il y a un empêchement, il y a quelque chose, je ne vais pas citer Arnaud à tout bout de champ, mais il y a quelque chose de ça dans ce genre de passage-là. C'est-à-dire que en vous concentrant sur cette circonstance-là, ce que fictionnellement elle aurait pu changer, en fait, il y a une description sociologique et micro-historique de tous les empêchements qui sont les vôtres à ce moment-là de votre vie, de votre développement social, intime.
Et c'est vrai que l'écriture est le seul moment... Je savais tout ça, j'avais tout ça dans un coin de ma tête. On sait, en fait, on sait tout. Mais dans nos existences, on n'a jamais l'occasion de s'arrêter, on ne s'arrête pas. Et l'écriture est le seul moment où on s'arrête. Enfin, en tout cas, moi, je m'arrête. Et c'est pour ça qu'il fallait que ce livre me faisait peur, parce qu'il fallait que j'accepte de regarder toute cette vérité en face et que j'aille explorer cette suite d'empêchements. Qu'est-ce qui fait qu'un coup de fil, on le passe ou on ne le passe pas ? Et on sait très bien comme c'est difficile de passer un coup de fil. On le voit aujourd'hui avec les SMS qui nous sauvent de pas mal de situations. Passer un coup de fil, ça veut dire interrompre ce qu'on est en train de faire, passer d'une situation à l'autre, rassembler l'énergie, le corps, la voix, l'esprit, c'est pas rien. Puis ça veut dire aussi une autre chose qui fait l'objet du chapitre qui suit, qui commence par « si j'avais eu un téléphone portable », c'est aussi faire effraction, là encore une fois, faire irruption, en tout cas dans la soirée de l'autre. Et je sais très bien que l'autre était en train d'écrire un article, puisqu'il était à la fois discothécaire et critique musicale. Je savais qu'il était en train d'écrire autour de l'interview qu'il avait fait de PJ Harvey suite à un concert donné à Lyon au début de sa tournée. Je savais que je risquais de le déranger alors qu'il serait en plein travail. Et puis, c'était aussi une période, donc là on revient sur la chose plus largement sociologique, les années 90, c'était aussi l'avènement des nouveaux pères, c'est-à-dire tous les journaux, toutes les revues les plus sérieuses et les journaux les plus sérieux avaient des titres qui parlaient de la façon dont les pères étaient en train de voir leur sort un peu se modifier, et c'était grandement en temps. Donc les nouveaux pères à qui la société a demandé de savoir faire tout un tas de choses qu'ils n'accomplissaient pas pour certains jusqu'à présent, c'est-à-dire assister à l'accouchement, changer les couches, donner le biberon et tout un tas de choses tout à fait intéressantes, c'est pas la question. Et l'avènement des nouveaux pères, ça voulait dire aussi une chose, ça voulait dire que les mères devaient apprendre à laisser la place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, accomplir certaines... Il faut beaucoup de temps, en fait. La société, en ce moment, on est dans un moment de bascule extrêmement, extrêmement important, extrêmement intense, depuis MeToo, etc. Mais il faut beaucoup de temps pour que le curseur aille très loin d'un côté, pour qu'il revienne, pour que les choses se rééquilibrent et que l'ensemble d'une société finissent par accepter d'avancer plus ou moins violemment, plus ou moins doucement. Et là, on était dans ce passage-là. Donc, ce qui voulait dire que moi, j'avais pleine conscience aussi de ce que c'était que d'être à distance. Et puis, il y avait un élan de féminisme aussi, de dire, bon, les garçons sont entre eux, là, t'es pas là, tu bosses, t'es à Paris, tu bosses, et ils se démerdent, en fait. Il y avait quand même cette chose-là qui était très forte, dont je parle dans le chapitre qui suit. Et c'est très intéressant de voir à un moment, de croiser par le biais de l'écriture, tous les faisceaux qui commencent à constituer un empêchement de téléphoner. Et pourquoi, à un moment, on lâche l'affaire. Et voilà, l'écriture permet de révéler honnêtement, ce genre de choses.
Et donc, la structure qui donc aborde les choses de façon réaliste, si j'ose dire, au début, et à un moment, il faut bien imaginer. Il y a quelque chose qu'il faut imaginer, c'est la dernière journée de Claude. Et ça vient à la fin. On y vient, je le disais tout à l'heure. Ce qui donne un portrait qui se constitue peu à peu. Qui se constitue, alors c'est comme s'il y avait un système de vase communicant, c'est-à-dire que ces touches sociologiques et tout permettent de nous donner des échantillons du personnage, si j'ose dire, au sens où nous sommes dans une fiction. Et de tracer un portrait. Moi, j'ai repensé à une citation que je ne suis pas allé chercher exactement, mais qui m'avait beaucoup marqué, d'un livre de Patrick Deville qui s'appelle Peste et choléra, qui disait quelque chose comme il faudrait faire la stèle ou le tombeau de chaque être humain, ce serait possible d'en faire la biographie. Et à un moment, ce livre, Vivre vite, devient, comme par détour, une vie, devient aussi un hommage au sens propre, très littéral, et puis forcément fictionnel à un moment, puisque raconter la dernière journée de Claude en tant que personnage, c'est nous le donner à voir, c'est nous le peindre, c'est nous dire comment il fonctionnait avec la banque, comment il fonctionnait avec la moto, comment il était habillé, comment il se tenait debout, etc. Et ça, j'ai trouvé ça très frappant, en fait. C'est-à-dire qu'évidemment, on le voit apparaître, mais c'est à la relecture que je me suis rendu compte à quel point c'était un portrait peu à peu. C'est dosé, ça apparaît peu à peu, page par page, pour en venir à ce dernier chapitre dramatique, mais également essentiel.
Alors, je n'avais pas du tout vu venir que ce livre serait aussi le portrait d'un homme. Je ne l'avais pas... Ça s'est venu, l'écriture a fait que c'est aussi le portrait d'un homme, par petites touches. Voilà, et ce qui était compliqué pour moi, et c'est aussi pour ça que je ne me suis pas autorisée pendant aussi longtemps à écrire ce livre, c'est que je n'arrivais pas à m'autoriser, alors ce mot est bizarre, m'autoriser, puisqu'il s'agit de moteur et de moto, le livre ne parle que de cela, de moteur à explosion et de d'enquête aussi, pour essayer de comprendre quelle était cette moto. Et je n'arrivais pas à m'autoriser à entrer dans ce que j'appelle la boîte noire de la dernière journée, parce que c'est un compte à rebours, ce livre est un compte à rebours qui part depuis 20 ans, enfin, ou même avant les 20 ans. Jusqu'au moment de l'accident. Et là, j'ai été le témoin, j'étais là, j'étais le témoin de notre vie, donc je peux en dire tout un tas de choses, je peux parler de toutes les étapes. Mais ce qui me manquait, évidemment, c'était la dernière journée, puisque j'étais à Paris. Donc l'accident se déroule en mon absence, et je pense que l'absence joue un rôle très important, puisqu'il y a transgression. Il y a, bon, je ne vous en dis pas davantage, mais il y a mystère autour de cette question, pourquoi ce matin-là, finalement, c'est cette moto qu'il va emprunter, pour laquelle il n'était pas assuré, qui n'était pas la sienne. Donc là, évidemment, il y a un mystère très grand autour de cette question. Et donc, oui, j'avais peur que ce soit inconvenant, voire obscène, d'entrer dans cette dernière journée. J'avais pas mal d'éléments, pas mal d'indices, et il y avait une ou deux personnes qui m'avaient donné des renseignements, notamment le déjeuner à midi, notamment, enfin, tout un tas de choses. Et j'ai fini par me dire que je pouvais y aller, en essayant d'être dans un exercice le plus pudique et à distance possible. J'ai essayé de faire en sorte que tout le livre soit à la bonne distance.
Jamais on entre dans sa tête.
Des choses extrêmement concrètes de la vie quotidienne, comme le chapitre que je viens de vous lire. Et je me dis à un moment, au moment de quitter donc la discothèque municipale qu'il dirigeait à Lyon, je me dis fatalement, une grande partie de son travail, c'était de faire des écoutes, de constituer un fond et de faire des écoutes. Et je me dis, si avant de partir, il a écouté en effet Don't Panic de Coldplay 3 minutes 14 et non pas Dirge Death in Vegas 5 minutes 44, évidemment, toute la différence se fait là. Je ne sais pas ce qu'il a écouté, je ne sais pas s'il a fait des écoutes, mais ça me permettait aussi de faire entrer la logique de la vie quotidienne dans quelque chose d'assez concret qui ressemblait évidemment à sa vie avec la musique au cœur. Je savais qu'il y avait les 300 francs. C'est l'année où on basculait entre les francs et les euros, ce qui veut dire qu'on était obligé de faire des règles de trois assez infantilisantes, comme je l'ai dit à un moment. Je savais qu'il avait oublié 300 francs dans le distributeur parce que le collègue avec qui il avait déjeuné à midi me l'avait raconté. Donc je me dis que probablement il a peut-être fait un détour à la banque en sortant à 16h30 pour aller chercher notre fils à l'école. Et que s'il fait un détour par la banque pour récupérer les 300 francs, il faut qu'il fasse la queue au guichet, et là aussi. Donc ça me donne l'occasion de parler de ce qu'est la banque, ce qu'est faire la queue à la banque, ce qu'est les bordereaux, ce qu'est un trajet, et comment on traverse une ville, comment on circule sur un boulevard. L'importance de l'enchaînement des feux. J'ai pas mal travaillé aussi sur, vous savez, les feux rouges. Quand on roule à une certaine vitesse, les feux s'enchaînent, Et on prend tous les feux verts, et c'est quelque chose d'extrêmement agréable d'arriver comme ça sur un boulevard et de savoir que si on n'accélère pas trop, on va avoir vert jusqu'au bout. Donc j'ai enquêté aussi sur comment les ingénieurs règlent les feux, d'où viennent les feux rouges dans une ville, comment aujourd'hui on est plus dans l'avènement des ronds-points. Les ronds-points, c'est quelque chose de beaucoup plus en prise avec le libéralisme, c'est-à-dire le flot qui ne s'arrête jamais. On n'est pas dans une société de l'interruption aujourd'hui. Voilà. Donc tout ça me permet aussi de parler du libéralisme d'une façon un peu détournée. Et donc j'entre dans cette journée parce que je sais que le feu est passé au rouge et que l'accident a eu lieu ensuite. Et à ce moment de l'arrêt, c'est devant le muséum d'histoire naturelle avec des enfants qui sortent. Donc j'imagine qu'à 16h30, il y a des enfants qui sont allés visiter le muséum avec leur classe, ce qui se passait très peu quand moi j'étais enfant. Ça me permet de parler du muséum, d'Émile Guimet, etc., et de me rendre compte qu'Émile Guimet est né le même jour. Enfin bon, voilà, tout s'enchaîne de façon totalement incroyable dans le lien aux coïncidences, aux signes, au hasard, et tout ça permet de se faire épauler par d'autres personnages, parce que en fait je me suis aussi posé la question du deuil et des différentes formes de deuil. Quand une mort est provoquée dans un contexte collectif qui a du sens au vu de l'histoire avec un grand H, par exemple des bombardements, par exemple une guerre, par exemple des attentats. Ce sont des morts évidemment atroces, mais qu'on peut expliquer parce qu'il y a eu quelque part une volonté de tuer, de détruire. Ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes concernées ensemble. Ensuite, ça veut dire qu'il y a enquête, ensuite il y a procès, ensuite il y a mémoire et devoir de mémoire, c'est-à-dire qu'il y a, une société, il y a des articles de journaux, il y a tout un tas de choses, et donc ce sont des deuils collectifs qui sont portés, je ne dis pas partagés, mais peut-être qui peuvent être portés par plusieurs personnes au même moment, et on peut essayer de comprendre les tenants et aboutissants. Alors que quand quelqu'un se plante tout seul en moto, Il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de groupe. Il y a une personne qui est seule avec quelque chose qui n'est ni... Il n'y a pas d'acte d'héroïsme, il n'y a pas de victime, il n'y a aucun terme qui peut convenir. Et c'est doublement déstabilisant, parce que ça veut dire que l'enquête, elle ne peut venir que de soi-même. Et quelqu'un m'a dit il n'y a pas très longtemps, et j'ai compris aussi le pourquoi de ce livre que je n'avais pas vu moi-même, c'était peut-être une recherche de partenaire, en fait, de partenaire de deuil. Et c'est pour ça qu'il y a toute cette galerie de portraits qui vont être là d'un bout à l'autre du livre, jusqu'à Tadao Baba, jusqu'à même Edikaku, et là il joue un rôle que je n'aurais pas imaginé qu'il allait pouvoir jouer.
Merci Brigitte. On est presque au bout du temps, puisqu'on a démarré en retard. Et il reste peut-être le temps pour une question. Oui, monsieur. Zélie ? Ah, s'il vient du fond de la salle, je peux peut-être vous donner le mien. Ça ira presque.
Merci Madame Giraud d'être là et d'avoir écrit ce livre. Ma question est... monsieur a évoqué plutôt la relation entre la fiction et le réel. Ma question est, est-ce que votre tragédie personnelle a changé votre regard sur les grandes tragédies classiques et antiques ? Merci.
Ah, vous voulez dire les grandes tragédies antiques qui ont été relatées au théâtre, par exemple ? C'est une très bonne question, merci. Je ne sais pas si ça a changé mon regard, mais en tout cas, ça m'a permis de trouver... un autre point où je me sens épaulée. De ce point de vue-là, oui. C'est-à-dire, mais ce type de tragédies sont rarement liées à un accident qui serait comme extérieur, même si je ne fais que démontrer que l'accident ne tombe pas par hasard, justement, qu'il y a tout un tas de faisceaux, de circonstances, y compris la guerre d'Algérie, qui joue un rôle extrêmement important, mais qu'on n'a pas le temps de développer, d'en parler. Alors que ce type de tragédies sont la plupart du temps liées à soit des guerres, soit vraiment des tragédies de crimes et de meurtres à l'intérieur d'une même famille. Donc là, on est dans quelque chose qui est un petit peu différent. Mais en effet, ce sont des éléments de réflexion qui sont à l'œuvre. Je suis justement en pleine réflexion en lien avec votre question. Merci.
Merci beaucoup. Une autre question peut-être ? Il nous reste une minute. Vous n'êtes pas obligé, hein, j'en ai moi-même 857 autres que je vous épargne. Et on essaie de tenir le temps. Et évidemment, il y a une séance de dédicace pour rencontrer Brigitte directement à la suite. Il y a en constellation énormément de questions qui se rattachent dans ce livre qui grandit au fur et à mesure qu'on le lit et qu'on l'ouvre. Donc merci beaucoup Brigitte. Vous pouvez découvrir aussi le reste d'une œuvre qu'on a évoquée par petites touches, mais qui se rattache de façon différenciée. Merci beaucoup, bonne soirée à toutes et à tous. Effraction 4e édition continue à 20h avec Mackenzie Orcel et évidemment tout le week-end. En dépit des intempéries et des problèmes de transport, nous sommes là et nous étions ravis de vous écouter, chère Brigitte.
Merci.